Venons-en maintenant au fond sur le pacte de stabilité, le TSCG, donc le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Qu'est-ce que ce traité apporte de plus par rapport aux dispositifs existants? Vous savez qu'aujourd'hui, la zone euro est théoriquement gouvernée par un certain nombre de règles qui ont été adoptées en 1997 dans le traité d'Amsterdam, ce qu'on appelle en général le pacte de stabilité et de croissance, qui reprend en fait les critères de Maastricht, qui fixe un certain nombre de règles, qui sont, un, il ne faut pas que le déficit courant, le déficit budgétaire courant des États, c'est-à-dire le déficit budgétaire courant, c'est le déficit constaté, celui effectivement constaté des États dépasse 3% de la richesse créée, 3% du PIB, que la dette publique soit au maximum à 60% du PIB, et qu'il y a sur le moyen terme une exigence d'équilibre des comptes publics. Ce pacte de stabilité, avant même la crise, n'avait pas été respecté par la plupart des États européens, notamment par les grands États européens qui sont la France et l'Allemagne, qui ne l'avaient absolument pas respecté. Bon. Ils ne l'avaient pas respecté pour une simple raison, que c'était des critères qui sont des critères économiquement non justifiables ni non, et qui n'ont aucune justification économique objective. Pourquoi 3% du PIB, pas 2,5, pas 4, pas 4? Pourquoi 60% du PIB? Bon, pour la dette, tout ça n'a aucune justification économique, mais je reviendrai dans quelques instants. Bon. La notion d'équilibre budgétaire elle-même n'a jamais été respectée par aucun État. Bon. Il faut noter qu'avant la crise économique de 2008, avant la crise financière, bon, les États qui respectaient et qui étaient montrés à l'époque comme étant les bons élèves de la zone euro, qui respectaient ces critères-là, c'était l'Espagne et l'Irlande, qui avaient des déficits budgétaires extrêmement faibles et une dette publique extrêmement faible, en tout cas nettement plus faible que les critères de Maastricht, bon, ou les critères du pacte de stabilité. Et on regarde aujourd'hui, on voit que ce sont ces États qui sont aujourd'hui au fond du trou, l'Irlande et l'Espagne, parmi les États qui sont le plus en difficulté. Bon. Donc on voit bien. Cet exemple-là montre bien que le respect de ces critères-là n'a en aucune façon empêché ces États de sombrer une fois que la crise financière est venue. Bon. Alors, qu'apporte donc le pacte budgétaire par rapport à ça? Il apporte plusieurs choses. D'abord, il apporte des sanctions qui sont des sanctions automatiques ou quasi-automatiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avec le traité d'Amsterdam et le pacte de stabilité, parce qu'il fallait des réunions du Conseil européen, des votes au Conseil européen pour décider des sanctions. Et par exemple, bon, la Commission européenne, à l'époque, quand l'Allemagne avait dépassé ses 3% de PIB de déficit budgétaire, avait voulu sanctionner l'Allemagne et elle n'avait jamais réussi à sanctionner l'Allemagne. Bon. Donc, là, il y a des sanctions quasi-automatiques, qui sont instaurées en cas de non-respect de ces critères-là. Bon. Deuxièmement, bon, ces sanctions d'ailleurs quasi-automatiques se font par ce qu'on appelle une procédure de majorité inversée. C'est-à-dire qu'auparavant, pour imposer des sanctions à un État, il fallait un vote à la majorité qualifiée, ce qu'on appelle la majorité qualifiée. C'est la majorité des États pondérée du nombre d'habitants de ces États. Donc chaque État a un certain nombre de voix, suivant le nombre d'habitants, ça qu'on appelle la majorité qualifiée. Donc il fallait auparavant un vote positif pour imposer des sanctions. Là, il faudra un vote pour refuser la sanction. Donc ce qu'on appelle la majorité inversée. Deuxièmement, est obligatoire la mise en place d'une sorte de comité budgétaire indépendant qui devra surveiller ce que font les gouvernements. En France, il va avoir un haut conseil aux finances publiques qui va être mis en place et qui sera une sorte de sentinelle pour faire en sorte de surveiller les gouvernements dans ce qu'ils feront. Troisième chose, bon, va être ajouté un nouveau critère, et je vais développer un peu cette affaire-là parce qu'elle est particulièrement importante, c'est le fait que le déficit structurel des États ne devra pas dépasser 0,5% du PIB. Alors, qu'est-ce que c'est que le déficit structurel? Parce que il faut vraiment que vous reteniez ça parce qu'on va en entendre parler, à mon avis, pendant des années, hein, de cette affaire-là. Le déficit structurel, c'est le déficit qui est, disons, indépendant, bon, de la conjoncture économique. C'est-à-dire que c'est le déficit qui serait, qu'un État ferait si la croissance économique serait normale dans une conjoncture normale. Ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent, notamment les économistes libéraux, parce que c'est un concept un peu néolibéral, cette affaire-là de l'économie néoclassique, ce qu'on appelle la croissance potentielle. C'est-à-dire, qu'un pays pourrait avoir comme croissance s'il n'y avait pas de crise économique, s'il n'y avait pas un chômage important, si les capacités de production étaient employées à un taux élevé, etc. Bon, ce qu'on appelle la croissance potentielle. Bon. Donc c'est le déficit structurel, c'est le déficit calculé indépendamment des aléas de la conjoncture. Comme si on calcule ce déficit comme si le pays avait une croissance normale, ce qu'on appelle une croissance potentielle. Tout le problème, c'est de savoir comment calculer ce déficit structurel et comment calculer donc cette croissance potentielle. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce qu'il n'y a aucun consensus parmi les économistes pour calculer et la croissance potentielle et donc le déficit structurel. C'est une pure construction statistique qui dépend essentiellement des hypothèses de départ, bon, des postulats que l'on met et qui peut aboutir à des résultats assez différents. Je vais vous donner, par exemple, pour 2011, hein, le FMI avait calculé que le déficit structurel de la France était de 3,4% du PIB. Le ministère des Finances en France l'avait, lui, indiqué qu'il était de 3,7% du PIB. La Cour des comptes, 3,9%, et la Commission européenne, 4,1%. Donc on voit que, je veux dire, suivant les hypothèses de départ, on aboutit à des résultats assez différents. Et dans le traité, c'est la Commission européenne qui est chargée de calculer, bon, le déficit structurel. Et par exemple, bon, pour vous donner un autre exemple sur ce que ça peut donner, cette affaire-là, en 2006, le déficit courant effectivement constaté de la France était de 2,6%, pardon, de 2,3% du PIB. À l'époque, la Commission européenne avait calculé que le déficit structurel de la France était de 3,6% du PIB. Donc le déficit courant, 2,3%, donc la France respectait les critères de Maastricht. Mais si on avait pris le critère du pacte budgétaire, c'est-à-dire un déficit structurel de moins, enfin, inférieur à 0,5% du PIB, comme la France avait à l'époque un déficit structurel de 3,6% du PIB, il aurait fallu faire des économies budgétaires de plus de 3 points de PIB, c'est-à-dire de plus de 60 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable, inouï, alors même que la France respectait les critères de Maastricht, qui sont eux-mêmes tout à fait discutables, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de totalement hallucinant. Par exemple, autre exemple, bon. En 2009, bon, la Commission a calculé que avec ses méthodes de calcul, que le déficit structurel était de 6% du PIB. Pourquoi ils sont arrivés à ce chiffre-là? Parce que ils prennent comme repère pour la croissance potentielle, en fait, des chiffres qui sont très près de la croissance réelle. C'est-à-dire qu'ils font comme si la crise économique avait durablement réduit les possibilités de produire, bon, de la richesse en France notamment ou dans différents pays. C'est-à-dire qu'ils considèrent, par exemple, que le taux de chômage qui approche 10%, eh bien, c'est un taux de chômage qui restera pérenne, que les capacités productives en France qui ont beaucoup baissé suite à la crise, eh bien, ce sont des capacités productives qui resteront basses, etc., etc. Donc, comme ils prennent un chiffre de la croissance potentielle qui est très proche de la croissance réelle, ils arrivent à un déficit, qu'un déficit structurel, qui est très élevé, qui est de 6% du PIB. Si on considère par contre qu'avec des bonnes politiques économiques, on peut remettre la France ou d'autres pays au niveau de production qui était le sien avant la crise, on arrive à un chiffre radicalement différent, qui est de 2% du PIB. Donc on voit bien que suivant les hypothèses de départ, on arrive à des résultats radicalement différents. Et c'est ça tout le problème, hein. C'est-à-dire que, en fait, avec les méthodes de calcul de la Commission, on aura des obligations de réduire le déficit structurel qui vont être très importantes parce que les méthodes de calcul de la Commission surestiment volontairement, hein, ce déficit structurel parce que ça entraîne derrière, évidemment, des coupes dans les dépenses publiques, des économies budgétaires, etc., etc. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est un point qui est rarement traité dans les débats publics, parce qu'on passe souvent sur cette affaire de déficit structurel. Or, ça va être maintenant l'élément clé à moyen terme qui va piloter les politiques budgétaires.